Vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffon. Aujourd'hui, le deuxième épisode de notre mini-série sur l'histoire des lesbiennes à Rennes, toujours en compagnie de la féerie, avec Alice, Camille, Clémentine et Françoise. Bonne écoute.
C'est pas totalement en lien, mais c'est quelque chose qui m'est venu aussi en vous écoutant, c'est que faire cette histoire, c'est aussi contrer peut-être un certain discours qui demeure hein, sur ces formes de militantisme qu'on va taxer de communautaire, pour ne pas dire communautariste. Et en fait, tout ce qu'on raconte là, c'est quand même la possibilité pour ces femmes de trouver un entre-soi qui est protecteur, mais qui a un entre-soi qui est tout à fait ouvert et ancré dans une histoire militante ou histoire tout court, parce que moi, ce qui me frappe, c'est que depuis que j'ai travaillé sur les archives et sur les parcours de ces femmes, c'est de rencontrer plein d'autres sujets et d'être capable de les relier à Femmes entre elles ou à La cité d'elles ou à Tire d'elles plus tard. Et pour prendre deux exemples, bon, déjà, Françoise disait tout à l'heure que dans les années 80 et 90 encore plus, on a des associations qui participent à des réseaux assez institutionnalisés. Donc ça, c'est hyper important, c'est qu'à Rennes, dans les années 80 et 90, le 8 mars ne se fait pas sans les associations lesbiennes. Dans les années 90, on a des militantes de Femmes entre elles qui participent au mouvement de la Marche mondiale des femmes. Donc c'est non seulement national, mais international. Et puis, ce que je disais tout à l'heure sur la réappropriation de savoir, bah en fait, alors, petite référence cinématographique, il y a l'année dernière, en fin d'année, le film Annie Colère qui est sorti et qui retrace l'histoire d'un groupe MLAC, donc c'est Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Et on voit des réunions, en fait, entre femmes. Et en fait, cette ambiance, donc là, c'est, pour le coup, c'est un militantisme féministe, mais l'ambiance, en fait, l'atmosphère et l'émancipation que peuvent trouver des femmes en non-mixité, c'est aussi ça que nous ont raconté, en fait, toutes les militantes ou anciennes militantes qu'on a rencontrées. Et dans les années 80, on a parlé du Wendo. Et là, c'est pour le coup, c'est peut-être plutôt La cité d'elles, mais pas que, en fait, parce que Femmes entre elles se mobilisent aussi contre les violences sexuelles, et qu'en fait, les années 80, c'est un grand moment de politisation des violences sexuelles, et en particulier du viol. Et donc, en fait, on a des militantes qui, encore une fois, s'engagent dans des actions dans l'espace public de dénonciation du viol. Enfin, et on pourrait multiplier les exemples. Donc, encore une fois, pour dire que c'est certes la découverte de ce que ça peut faire, la non-mixité, de l'émancipation, que d'être, de la possibilité de s'organiser sans les hommes et sans le regard des hommes. Donc, que ça produit chez certaines, enfin chez toutes, je pense qu'on a toutes fait cette expérience, et d'être complètement ancré en lien et en fait de faire en fait l'histoire féministe, l'histoire politique bretonne et française en fait.
Après, moi je pense que ce qu'ont montré quand même nos recherches, c'est que ce que tu dis là, Alice, oui, la non-mixité hors du regard de l'homme et du système patriarcal, mais ça croise aussi, et ça c'est vrai que c'est une découverte que j'ai faite grâce à vous, mesdames les chercheuses, c'est la question de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité au travers des classes sociales. C'est-à-dire que moi j'avais pas fait attention à ça au départ, parce que j'avais interviewé que des copines de femmes entre elles, qui donc étaient à peu près, on va dire, dans les mêmes classe sociale, jeune travailleuse à la SNCF, dans une mutuelle, voilà. Et c'est dans les travaux de recherche sur la cité d'elle que j'ai compris des choses qui se sont jouées ensuite, dans la fin de la cité d'elle, le début de la tire d'elle et finalement la disparition de la tire d'elle, en termes de alors capital culturel, appartenance à un milieu peut-être plus que des classes, parce que à la citadelle, il y avait aussi des femmes qui venaient pas forcément de milieux sociaux très, mais une répartition quand même avec des copines disant, moi je faisais les petites mains. Et voilà, il y avait celles qui décidaient, celles qui réfléchissaient, puis celles qui faisaient. Ce qu'on retrouve dans toutes les sphères militantes. je dis ça pour pas tomber non plus dans une espèce d'angélisme ou de comment on appelle ça, de déni de ces réalités-là. Ça s'est retrouvé aussi au sein de la Cité d'Elle, où ça a clairement été exprimé, mais aussi au sein de Femmes Entre Elles, dans la répartition, entre guillemets, des tâches militantes, dans la représentation publique, voilà, dans les dynamiques, par exemple, d'écriture du bulletin de Femmes Entre Elles. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la bulletine, ça c'était pour la Cité d'Elle et à Tire d'Elle. Et donc, à Femmes Entre Elles, c'était Conte de Fées. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de parler de ça, non pas pour décrier je ne sais quoi, juste pour dire on est toujours traversé, quel que soit le groupe, enfin la forme, je ne sais pas comment dire, d'organisation, par ces questions-là aussi. Et par exemple, dans les milieux lesbiens et féministes de l'époque, la question des femmes de couleur, aujourd'hui on dit racisées, elle a été posée. À l'époque, il y avait très peu de personnes de couleur à Rennes, mais quand même. Et encore aujourd'hui, la question se pose. C'est-à-dire comment on fait pour être dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité ou la convergence des luttes, selon comment on se situe, qui continue à nous traverser les unes ou les autres.
Camille ?
Je voulais rajouter un petit élément, mais du coup peut-être que qu'Alice l'a déjà mentionné, comme j'entendais pas très bien, donc si c'est le cas, vous m'arrêtez. Je voulais juste mentionner aussi que qu'en fait là on a parlé un peu de ces réseaux et de ces associations et de ce qu'elles font disons, au niveau local ou régional, mais elles se sont aussi ce qui a été assez intéressant de découvrir, c'est qu'elles se sont intégrées en fait à des réseaux vraiment nationaux et internationaux, que ce soit féministes ou lesbiennes. Et notamment, par exemple, donc elles se sont rendues aux universités d'été homosexuelles qui se tiennent à Marseille tous les deux ans dans la décennie 80. Et donc ça, elles nous disent que c'est un moment où ça leur permet de rencontrer en fait d'autres groupes lesbiens, notamment des villes de Nantes, d'Angers, etc. Donc d'autres villes que Paris. Hein. Donc il y a des groupes lesbiens qui existent dans d'autres villes aussi. Et notamment donc cette rencontre, notamment avec les groupes lesbiens de Nantes et d'Angers, débouche sur la création d'une coordination lesbienne de l'Ouest, qui donc à l'intérieur de laquelle intervient notamment Fée, donc qui est créée en 1983. Et donc voilà, cette coordination lesbienne de l'Ouest, on a retrouvé des tracts, et donc elles ont fait quelques réunions qui permettaient un peu de structurer leur militantisme à l'échelle régionale. Et elles ont aussi participé, donc là plutôt sur le plan international, plusieurs militantes qui sont participer à la conférence de l'EGIS, qui est donc l'International Lesbian Information Service, qui a eu lieu à Genève en 1986. Et donc là, pareil, hein, pour moi, l'EGIS, c'était le gros réseau international, en tout cas européen, de mise en réseau de différents groupes et associations lesbiennes. Et donc là, il y a toute une mise en relation avec d'autres groupes lesbiens européens et mondiaux. Et notamment, il y a quelques militantes dans leur interview qui nous expliquent avoir participé à cette conférence et qui nous disent c'est vraiment le moment où j'ai pris conscience qu'en fait, il y avait aussi des lesbiennes juives, des lesbiennes noires, etc. Et donc vraiment toute cette prise de conscience, d'ouverture sur d'autres réalités lesbiennes, autres que celles des militantes lesbiennes de Rennes ou de la région ou françaises. Et donc là, il y a vraiment une ouverture à un questionnement. Et ce questionnement, bon, nous, on l'a pas trop étudié, mais je sais que ce questionnement, en fait, il se retrouve beaucoup plus tard, dans les années 90, la fin des années 90, dans la création de la coordination lesbienne nationale, à l'intérieur de laquelle des militantes lesbiennes rennaises se sont intégrées. Donc, cette question de l'antiracisme, à l'intérieur du mouvement lesbien, va être posée et donc elle intervient aussi à ce moment-là et les militantes lesbiennes de Rennes vont jouer un rôle sur cette idée d'intégrer l'antiracisme à l'intérieur des luttes et des revendications lesbiennes.
Peut-être pour approfondir ce que tu as commencé à expliquer, Françoise, sur la manière dont les divisions de classe se traduisaient très concrètement dans le travail associatif. Ce qui était, ce qui nous a pas mal interpellés, c'est qu'en fait, 40 ans après les engagements, les participants de la Cité d'Elle avaient une pleine conscience de ces divisions de classe. Donc il y avait aussi une forme de réflexivité assez forte sur ces divisions qui les ont traversées. Je pense que ce qui était vraiment très intéressant, c'était de voir comment aussi certaines militantes avaient réussi à teinter finalement un peu les mots d'ordre de l'association, ou en tout cas sa manière de politiser justement le lesbianisme, par le fait qu'elle venait de classes sociales privilégiées, de milieux plutôt bourgeois, avec une forte maîtrise justement de l'exercice de théorisation, une ascendance intellectuelle en fait sur le groupe, qui ensuite se traduit par une forme de charisme. Hein. Donc le charisme, c'est pas une propriété innée naturelle, c'est le fruit de justement ces ressources qu'on possède, intellectuelles, culturelles, de son origine familiale, etc. Et cette ascendance intellectuelle, elle était aussi politique et un peu le mot d'ordre qui, à un moment donné, a été beaucoup prôné à la Cité d'Elle, c'est le féminisme et la théorie, le lesbianisme et la pratique. Donc il y avait aussi cette dimension intentionnelle du lesbianisme comme identité vers laquelle on doit tendre pour être une bonne féministe. Donc ça, c'était un mot d'ordre qui était prôné par les plus dotés politiquement et culturellement. Et certaines des autres militantes ont pu nous dire que c'était un peu des injonctions qui étaient assez fortes et avec lesquelles elles n'étaient pas forcément à l'aise, mais qu'elles n'ont pas pu dire sur le moment. Et puis, quand on parle de division du travail militant, c'est aussi qui, par exemple, très concrètement, organise la logistique autour d'un stage de Wendo, les inscriptions, prévoir la logistique très matérielle, la nourriture, etc., etc. Et qu'en fait, c'était plutôt des femmes plus discrètes ou en retrait de l'exercice justement de théorisation qui prenaient en charge ces tâches et qu'elles n'étaient pas également réparties au sein de l'association. Ça, c'est des choses qui nous ont été livrées et qui sont intéressantes aussi.
Et qui sont encore très vives aujourd'hui parce qu'il y a des femmes, donc de femmes entre elles, qui expliquent qu'elles se sont senties bien à femmes entre elles parce que justement, elles organisaient des rallyes, des tournois de pétanque, Et, alors qu'à l'époque, c'était vécu par certaines personnes, femmes de la Cité d'Elle, comme singer les hommes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des représentations de part et d'autre, les unes pensant que les féministes n'étaient que des intellos déconnectés, je caricature, hein. Les autres pensant que à femmes entre elles, c'était donc des hommasses, comme ça a été dit. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure des activités, des mobilisations dont on parlait, mes petites camarades, quelque chose se régule, pas pour tout le monde. Hein, il y a des femmes qui partent de la Cité d'Elle. La Cité d'Elle s'éteint et à Terre d'Elle reprend. Mais chacune de ces composantes, en fait, nourrit l'autre et permet aux femmes de s'émanciper, chacune, enfin, collectivement, mais aussi chacune à leur manière. Il y a des femmes qui sont passées par le lesbianisme, on peut dire, mais qui sont ensuite revenues à une vie tout à fait normée, on va dire. Au contraire, des femmes qui étaient dans une vie tout à fait normée et qui ont tout petit à petit tout envoyé, qui ont tout déconstruit et qui aujourd'hui ont une vie complètement différente. C'est la richesse aussi de tout ce travail, au-delà du fait de rendre visible et de rendre aussi justice d'une certaine manière assez militante, qui pour certaines maintenant ont passé 70 ans. Le constat de la division des tâches, on va dire, et des apports parfois douloureux des unes ou des autres dans cette répartition des tâches et des représentations que les unes pouvaient avoir envers les autres, on voit arriver dans la décennie, 90, 92, 93, une modulation qui fait que un certain nombre de femmes s'y retrouvent, que petit à petit, femmes entre elles et l'association attirent d'elles, qui se définit donc pour les femmes à libre orientation sexuelle, mais donc ouverte aussi aux hétérosexuels, trouvent des accords sur des mobilisations. Donc quelqu'un d'autre, je pense, va parler peut-être de la mobilisation sur Véronique Acobé menée par Attirdel, Et donc, comme je le disais, ou comme ça a déjà été dit, Femmes Entre Elles, elles se mobilisent et arrivent à mettre en place un collectif pour organiser notamment une Lesbian Gay Pride à Rennes, mais aussi une coordination nationale à Saint-Nazaire avec une manifestation et un certain nombre d'éléments ensuite. Mais c'est intéressant de voir que chacune de ces mobilisations, s'il y a une association qui est leaduse, je ne sais pas si on dit, par exemple sur Véronique Acobé, c'est clairement à tire d'elle qui est leaduse, mais un certain nombre de femmes entre elles qui sont aussi adhérentes à tire d'elle participent. Et pour le collectif LGP, à tire d'elle en tant que telle met du temps à rejoindre le collectif, mais un certain nombre de copines d'à tire d'elle sont membres de Femmes Entre Elles. La double adhésion permet des circulations très très intéressantes, enfin, il me semble.
Et c'est aussi que les deux associations, donc au début des années 90, donc à tire d'elle et Femmes Entre Elles, partagent un même local. Donc évidemment, elles partagent par exemple leur bibliothèque, et puis bah du coup ça concrétise vraiment les rencontres, ça fait que les informations circulent beaucoup plus facilement d'une association à l'autre. Voilà, même s'il y a des affichages militants et politiques différents, en fait ce dont on se rend compte, c'est que il y a des luttes croisées ou des causes qui se croisent entre ces deux associations. Et cette homogénéisation un peu du militantisme, elle tient aussi justement au parcours de vie de ces femmes là aussi a des similitudes. Enfin, ce qu'on a pu voir en faisant des entretiens, des récits de vie, c'est que par exemple de plus en plus de femmes militantes dans les années 90 ont connu des parcours scolaires qui par l'université aussi, par l'accès aux études supérieures, donc ça aussi ça crée du commun en termes de ressources culturelles, d'expériences socialisatrices aussi en tant que jeune adulte, mais aussi la participation à d'autres causes et luttes qui se structurent dans les années 90, notamment celle autour du sida. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que beaucoup de lesbiennes ont de près ou d'un peu plus loin côtoyé des associations qui militaient autour du sida. Et que ça aussi c'est une forme de d'homogénéisation des cultures militantes.
Camille.
Je peux peut-être commencer à avancer là donc sur ce que disait Françoise sur l'action d'Attire d'elle vis-à-vis de Véronique Acobé. Cette action s'est donc menée par Internet dans les années 90. C'est une action de soutien à la demande de grâce de Véronique Acobé, qui est emprisonnée en fait à la maison d'arrêt de Rennes, et qui est accusée d'avoir assassiné son patron, violeur, vis-à-vis d'elle. Donc il y a tout un collectif en fait de différentes associations, notamment féministes et donc lesbiennes, donc avec Katia d'elle, qui se crée demandant sa grâce. Et on a retrouvé donc dans les tracts des archives de l'association Femmes Entre Elles, on a retrouvé différents tracts et pétitions qui étaient distribuées par différentes associations et par Katia d'elle dans la ville de Rennes et aux différents hommes et femmes politiques de la ville pour obtenir des pétitions de signature, etc., pour obtenir la grâce. Donc il y avait une action de cet ordre-là notamment, et qui a relié en fait les différentes militantes autour de Tatiana Bell, mais aussi de Femmes Entre Elles sur cette action de revendication.
Et quelle a été l'issue de cette action ?
Elle a été
graciée.
Elle n'a pas obtenu tout de suite la grâce, et je ne sais plus si elle l'a obtenue plus tard.
Elle l'a obtenue plus tard, mais par le président de la République, à l'occasion d'une loi constitutionnelle.
Et cette action en soutien à Véronique Acobé, elle a été menée en partenariat avec l'AVFT, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. C'est important de le souligner parce que c'est une association historique sur la question des violences sexuelles. et au travail. Et donc, ça a été aussi un moment de, bah là aussi, de politisation forte de cette question des violences sexuelles, par un travail, enfin, on a été assez impressionnés de retrouver dans les comptes rendus de réunion la liste des associations, partis politiques, organes militants de tous ordres que Attirdel a rallié à cette cause pour signer cette fameuse pétition et, en tout cas, essayer de d'essaimer le soutien à Véronique Acobé de manière le plus large possible, quoi.
Ce qui était intéressant dans la mobilisation, c'était que la VFT avait bien mis en évidence toutes les dimensions de cette affaire. Oui. Véronique Acobé était donc une femme, une femme de couleur qui avait été violée par son patron et qui, pour se défendre, à un moment donné, l'avait tué. Et donc, ça permettait de croiser un certain nombre de luttes. Et ce qui a été très intéressant, et ce que Clémentine et Camille ont souligné, c'est que Attirdel s'en a emparé sur l'ensemble de ces dimensions-là, avec un matériel fourni par la VFT, mais aussi décliné localement, en mettant en évidence la question du viol, la question des rapports de domination au travail, la question de la couleur de peau. Et donc, c'était très riche comme...
Oui, parce que Véronique Acobé, elle était domestique. Enfin, c'est quand même important de le souligner. Voilà. Donc, c'est pas non plus n'importe quel patron.
Alice, tu veux compléter ou rajouter quelque chose?
En fait, c'est ce que disait Françoise tout à l'heure par rapport à l'intersectionnalité. On a ajouté la dimension de classe et on l'a ajouté... Bon, peut-être qu'on s'en serait rendu compte tout seul, mais aussi parce qu'il y avait une sensibilité des militantes elles-mêmes, aux autres rapports de pouvoir qui pouvaient les traverser. Il me semble que cette sensibilité, elle vient du fait que être lesbienne, c'est déjà une lutte intersectionnelle en soi. Parce que l'identité lesbienne, c'est pas juste, enfin, voilà, c'est ajouter. C'est pas que ajouter, mais c'est être une femme, c'est être une femme lesbienne. Et donc vous retrouvez pas en tant que militante lesbienne dans l'identité, enfin. Et en fait, on a dit que c'est là aussi qu'il y avait eu peut-être impossibilité de converger. C'est sur quelle identité politique on met en avant en premier. Et donc à la Cité d'El, à Attirdel après, on met en avant l'identité femme comme sujet politique, mais pour bien des femmes, c'est pas suffisant parce que c'est pas que le patriarcat qu'on subit en tant que lesbienne, c'est l'hétéro-patriarcat, c'est toute l'hétéro-normalité ou l'hétéro-normativité. Et en fait, de subir cette oppression spécifique en tant que lesbienne, ça, et surtout quand on a politisé cette identité, ça rend sensible à d'autres formes d'oppression spécifiques. Et donc, c'est logique, enfin, ça s'explique très bien politiquement et socialement qu'elle soit très attentive, en fait, aux autres oppressions. Camille le disait, quand elles vont à Genève pour la conférence de Lilis, elles découvrent l'oppression spécifique des femmes lesbiennes noires, femmes lesbiennes juives, femmes lesbiennes non valides. Et ça les touche, forcément, parce qu'elles savent. Elles ont fait déjà l'expérience d'oppression. Et donc, forcément, ça développe une sensibilité politique aussi au rapport de classe. Et donc, ça paraît aussi logique que dans les années 90, elles se saisissent du sort de Véronique Acobé. Je dis logique, c'est pas normal, c'est pas naturel, c'est bien le résultat d'une politisation qui s'est faite depuis les années 80 et qui est très liée à l'expérience de ces femmes. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant dans dans cette histoire militante. C'est la politisation d'expérience. Et donc, heureusement, entre guillemets, que la théorisation n'est pas restée le monopole des femmes les plus dotées. Parce qu'en fait, l'expérience de ces femmes est riche et un support de lutte vraiment fondamental.
Pour continuer à explorer cette idée là d'une sensibilité particulière à la condition minoritaire, ce qu'on a pu voir aussi, c'est comme on a réalisé des récits de vie, on les a interrogés sur au-delà de la défense de la cause lesbienne, dans le chemin de leur vie, quelle autre lutte elles ont rencontrée ou dans quelle autre dynamique associative ou collective elles se sont engagées. Et pour nombreuses d'entre elles, on a pu constater qu'elles étaient particulièrement sensibles à la cause animale. Et du coup, là aussi, il y a une sorte de cohérence et identitaire et politique et militante dans le fait de s'engager dans des associations de défense de la cause animale, parce que cette capacité à cerner que là où se jouent des rapports de domination et comment structurellement notre société elle organise des conditions minoritaires, dont celle des animaux. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a pu voir justement en les interrogeant sur voilà, quelles autres causes elles avaient embrassées au cours de leur vie, quoi.
Ce que je pense aussi qu'il faut avoir en tête par rapport à ce que ça fait lien avec ce que Alice notamment vient de dire, c'est que les lesbiennes, elles étaient discriminées par les hommes, mais aussi par les femmes. C'est-à-dire que pour une femme hétéro, pendant des années, et c'est encore comme ça aujourd'hui, le fait d'être lesbienne et de le dire, c'est une subversion qui les met en danger. Parce que ça vient dire qu'on peut ne pas être pris dans des rapports de séduction, de domination avec des hommes, qu'on peut être autonome, qu'on peut choisir sa partenaire. Voilà. Alors, dans le temps, il y avait aussi la question des enfants, et donc des petits-enfants pour les parents qui rajoutaient une chape de plomb sur le fait de dire qu'on était lesbienne. Aujourd'hui, avec la question de la PMA, ça se transforme un petit peu, mais ça reste quand même compliqué. C'est quand même une des premières causes de tentatives de suicide chez les jeunes. Il faut jamais oublier ça, le fait d'être lesbienne. Voilà. Donc, ça reste quand même compliqué. Dans les mobilisations, il y a eu aussi, autour des années 2000, la création d'une troupe de théâtre qui s'appelait « Pourquoi pas Théâtre Forum contre l'homophobie ?» basée donc sur le théâtre de l'opprimé, avec des techniques éprouvées, on va dire, dans les pays du tiers-monde, et qui a permis à un certain nombre de lesbiennes qui étaient discrètes dans les associations, qui n'étaient pas de s'impliquer dans des scénarisations de situations vécues dans l'espace public. Et ça a été très important sur la ville de Rennes, avec des associations comme les parents gays et lesbiens, ou bien l'association Contact, une association d'écoute des personnes liées à l'homosexualité. Il y a eu des événements communs entre associations qui n'avaient pas forcément les mêmes profils militants, mais qui ont pu créer un pot commun autour de cette question de l'homophobie. C'était aussi la naissance de l'année de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, hein, avec Louis Georgetin. Mais ça a été des années importantes aussi pour un certain nombre de jeunes et moins jeunes. J'ai souvenir d'une copine qui était pourtant lesbienne et qui a compris ce jour-là à une représentation ce que c'était vraiment que l'homophobie et la lesbophobie. Alors que on pouvait penser qu'elle l'avait déjà éprouvé et tout, parce que, voilà, comme le disait quelqu'une tout à l'heure, le théâtre, c'est aussi les moyens artistiques qui viennent toucher d'une manière sensible, autrement que par le discours qui parfois est révélateur de classe aussi. Le théâtre peut l'être aussi, mais l'art parfois fait appel à autre chose.
Est-ce que ça t'inspire, Camille?
Ouais, enfin, en fait, je voulais juste rajouter quelque chose sur quel lien on fait entre l'histoire de lutte passée, mais toujours reliée avec le présent. Et en fait, donc pour travailler sur ces thématiques-là, à l'université, je me suis rendu compte que quand on a commencé en fait cette enquête au tout début, donc en 2018-2019, bah c'était une thématique qui n'était pas encore très très développée en fait à l'université. Moi, j'allais notamment aux archives lesbiennes à la Maison des Femmes de Paris. Et en fait, voilà, on avait quand même peu de personnes qui venaient travailler sur ces archives. Et aujourd'hui, quand j'y retourne, il y a entre une quinzaine et une trentaine d'étudiantes militantes qui viennent travailler sur ces archives. Et en fait, on se rend compte que ce soit en termes d'études pour des dossiers de recherche, de licence ou des masters ou des thèses, etc. Enfin, peu importe, ou pour l'écriture d'articles même militants, universitaires, c'est vraiment très, très impliqué en termes militants universitaires. On se rend compte qu'il y a vraiment une dynamique très importante sur cette recherche de l'histoire de ces luttes. Et voilà, et des évolutions aujourd'hui en termes d'identité, en termes d'analyse de ce qu'on peut apporter. Et donc moi, je trouve que c'est ça aussi qui est vraiment très intéressant sur le fait de quelle a été l'histoire en fait de ces luttes-là, et aujourd'hui où est-ce que ça où est-ce que ça nous amène, et le fait de voir que bah, maintenant, il y a quand même énormément de personnes, même si c'est pas encore très visible parce que ce sont des mémoires et qui sont pas forcément publiées, etc. Mais il y a quand même une richesse aujourd'hui qui, j'espère, pourra être accessible à un plus grand nombre. Mais voilà, même en termes de podcast, etc., il y a vraiment toute une richesse autour des recherches menées sur cette histoire des luttes et surtout sur cette mémoire. Il y a vraiment un objectif vraiment très important, en fait, de ne pas perdre cette mémoire, en fait, qui est très souvent invisibilisée, hein, la question de réussir à garder ces archives, en fait, est très compliquée. Déjà, par exemple, en termes de féminisme, il y a une certaine institutionnalisation pour l'homosexualité. Il y a très peu d'institutionnalisation d'une politique publique de garder ces archives-là. Peut-être qu'on n'en fait pas non plus, d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment aujourd'hui, la question, en fait, de comment est-ce qu'on garde ces archives-là, et qu'elles soient écrites ou orales, en fait, de réussir à garder les témoignages des actrices de ces années-là pour pas perdre, en fait, pour pas que cette histoire des luttes s'invisibilise encore plus d'année en année, en fait. Donc, c'est vraiment aussi une thématique militante, en fait, enfin, vraiment très, très imbriquée entre du militant et de l'universitaire.
Oui, moi, ce que je trouve, enfin, pour rebondir sur ce que dit je trouve que c'est un bel enseignement aussi que de travailler sur l'histoire de ces luttes-là, parce que ça nous permet de comprendre que tout n'est pas contemporain. Enfin, on a l'impression que tout est toujours nouveau, mais je vais donner deux exemples. Par exemple, dans les années 90, donc je sais plus si c'était Fée ou Attire d'elle, ou peut-être les deux associations, mais elles ont mené comme action de rebaptiser les noms de rues en mettant des noms de femmes, ce qui est voilà, qu'on connaît aujourd'hui parce que c'est devenu un peu une action typique des luttes féministes, etc. Mais en fait, ça a déjà existé au début des années 90. De même qu'en Bretagne, il y avait un petit groupe un peu éphémère qui s'était constitué, qui s'appelait les Corriguines, et qui allait je fais une erreur, mais qui allait dans les fesnoses.
Ah, non, ça c'est autre chose, ça c'est pas grave.
Voilà, c'est en tout cas un collectif qui allait dans les fesnoses pour justement interpeller sur la pratique très genrée des danses traditionnelles ou des danses en duo où c'est homme-femme, etc. Les bigouguines, voilà. Et donc ça résonne complètement avec des dynamiques aussi actuelles autour de pratiques alternatives, de danse bretonne ou traditionnelle. Donc voilà, ça, je trouve que ça permet de comprendre que tout ça, c'est le fruit de sédimentations de luttes qui n'ont pas forcément une continuité, dans le sens où justement, on n'a pas reçu en mémoire ces choses-là. Dans les constats qu'on pose sur nos structures sociales ou sur la politique, et ben on arrive au même type d'action, même mode d'action. Donc ça, je trouve que c'était aussi une belle découverte.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que moi, par exemple, je suis partagée, je vois bien, parce que je reçois des coups de téléphone, on me demande machin, tout ça, de personnes qui font des recherches, alors en licence, en master, sur les gays ou les lesbiennes, et qui en font un objet de comment ça s'appelle, de mémoire ou de travail et parfois je suis un peu interloquée parce que elles en font un objet comme elles étudieraient la cuisson des pommes de terre, je caricature, mais voilà. Et d'un autre côté, je trouve que c'est très très important. Bon, ça prend du temps, mais ça permet aussi de raconter tout ça et de dire, mais tu sais ce que tu me dis là, déjà le 8 mars 95, enfin voilà. Donc c'est comme on renouvelle la transmission et les pratiques militantes. Et puis aussi, ça permet à un certain nombre de personnes de se sentir beaucoup moins seules que fut une époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'il y a des femmes connues comme aussi bien, je sais pas moi, Alice Coffin, Christine Barr, Natacha Tchetouki, Ilana Eluat, enfin des chercheuses, mais pas seulement, des artistes. Moi, je vois autour de moi les jeunes, Oshi, ça leur fait un bien fou, quoi. Je pense que du côté de la visibilité lesbienne, il y a eu une ouverture et un grand soleil. Après, dans l'acceptation de tous les jours, dans les familles, dans les milieux professionnels et dans les milieux politiques, parce que on voit bien ce qui se passe du côté de l'extrême droite notamment, avec un backlash terrible autour des LGBT. Là, il y a encore beaucoup de boulot et qui n'est pas seulement un travail d'archives ou d'universitaire, mais qui est un travail Alors, militantisme, ça fait peur quand on dit ça maintenant. Donc, je ne sais pas, d'engagement, peut-être, on va dire, qui est vraiment d'actualité. Et je pense que ça ne va pas s'arranger. Les grosses manifs qu'il y avait eu des gays et des lesbiennes en 2002, après le premier tour des présidentielles où Jean-Marie Le Pen était présent au deuxième, moi, j'aimerais bien vérifier que ça se repasse et qu'on n'est pas complètement azimuté par des campagnes ou voilà qui donneraient à penser que tout est gagné et que plus rien n'est fragile. Ce serait, de mon point de vue, une erreur. L'histoire est toujours faite de cycles et là il y a des forces contradictoires qui s'exercent avec, de mon point de vue, un rapport de force et une course de vitesse assez important dans les mois qui viennent.
Alice, peut-être?
Oui, et en fait, ne serait-ce que quand on travaille sur les archives ou grâce aux récits de vie, on se rend compte que malheureusement, déjà, d'une part, tout est toujours à refaire, hein, rien n'est jamais gagné, mais comme dans d'autres militantismes, et peut-être celui-ci en particulier, et qu'il y a quand même des constantes, c'est-à-dire que oui, il y a une ouverture, il y a des droits qui sont gagnés, et donc il y a une dépénalisation, décriminalisation, légalisation d'un certain nombre de choses. Mais, comme le disait Françoise, que ce soit les femmes qui commencent à militer dans les années 70-80 ou celles qui commencent à militer dans les années 90, et je pense que c'est vrai encore aujourd'hui, y a quand même des constantes dans les vécus, dans les expériences, et malgré quelque chose qui a changé, c'est qu'il y a quand même des figures lesbiennes, des modèles d'artistes, d'universitaires ou dans les médias. Donc ça a changé, et en même temps, malgré cette visibilité lesbienne, c'est toujours pas facile, c'est toujours pas évident de se dire lesbienne, et que oui, donc le combat il est toujours à mener, et donc il y aura toujours besoin de militer, et que pour pouvoir lutter là tout de suite contre la menace de l'extrême droite, du coup, merci beaucoup Alice pour ce podcast, parce que c'est justement en transmettant la mémoire qu'on prend conscience de tout ça, qu'on prend conscience de la continuité et de tout ce qu'il y a encore à gagner ou de ce qui n'a jamais été gagné.
Merci à vous d'être là. Toute seule, je ne ferai rien. Est-ce que vous voulez, parce que je suis un peu curieuse là, de comment vous avez travaillé du coup? J'entends que vous avez fait des entretiens, vous avez fouillé des archives, c'était compliqué, c'était facile? Qui veut commencer?
Moi, je voudrais souligner le rôle de Françoise quand même, parce que je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué de prendre contact avec les anciennes militantes de Femmes d'Entraîne ou de la Cité d'Elle, déjà parce qu'on ne les aurait pas eues. Et deuxièmement, parce que il y avait déjà tout un chemin de confiance qui avait déjà été fait, parce que c'était Françoise. Donc ça n'a pas été trop compliqué, mais c'était pas naturel. Et l'accès aux archives, ça a été pareil. C'est parce que Françoise a pu insister un petit peu pour avoir accès, faire tout un travail, encore une fois, de construire cette confiance, parce que on en revient à ce qu'on disait juste avant. C'est vrai que quand on a une telle expérience et quand on sait les menaces qui pèsent encore sur les lesbiennes, ouvrir ces archives et donc ouvrir aussi l'accès en fait à la liste des adhérentes, ne serait-ce que ça, et aux comptes rendus de réunions qui font apparaître qui participe à ces réunions, ça n'a quand même rien d'évident. Donc on a réussi et on a des archives très riches, c'est beaucoup grâce à Françoise.
Et ce qu'il faut souligner aussi en termes d'accès aux archives, c'est que il y a plutôt une très bonne pratique de conservation des archives associatives par fait, mais qui du coup a aussi conservé celle de Cité d'Elle et d'Attire d'Elle, ce qui n'est pas le cas quand on fait des recherches sur le militantisme ou les collectifs militants. Ce sur quoi on achoppe en tant que chercheur, c'est que souvent, c'est des archives qui ont été disséminées ou qui n'ont pas été bien référencées, etc. Donc, on ouvre des boîtes, mais on ne sait pas ce qu'on trouve dedans. Et là, plutôt, il y a eu un souci de l'archive. Alors, je ne sais pas s'il avait été prémédité, pareil, conscientisé, ou juste qu'on avait affaire à des militantes très bien organisées. Mais ce qui nous a amplement facilité la tâche, parce qu'il y avait des boîtes avec des inscriptions, des noms des associations, des années, etc. Donc, pour retracer des chronologies ou retrouver des comptes rendus, c'est vrai que ça a été facilitant.
En fait, ce qui a facilité les choses, comme dit Clémentine, c'est que quand la Cité d'Elle a périclité et que des femmes de... ont repris sous le nom d'Attire d'Elle, elles ont fait un premier archivage. Et quand Attire d'Elle a périclité, et donc finalement les militantes, la plupart avaient des doubles adhésions, donc sont restées à Femmes Entre Elles et il n'y a plus Attire d'Elle, elles ont aussi refait de l'archivage, parce qu'à l'époque, il y avait eu l'idée de donner les archives aux archives lesbiennes, dont parlait Camille tout à l'heure. Et puis finalement, l'idée ne s'est pas concrétisée, ça tombe bien pour nous. Alors moi, ce que je voulais dire aussi, c'était que il y a eu deux chemins aussi pour les entretiens. Il y a eu celui que vous avez parcouru lors de votre enquête Sombrero, où vous avez déjà engrangé, on va dire, des pistes de travail et des contacts. Après, il y a effectivement eu les contacts par mon intermédiaire. De la même manière, pour les recherches, il y a celles que vous aviez déjà faites pour Sombrero, et il y a tout le travail que Camille a fait aux archives lesbiennes et gays, je le dis toujours dans les ordres, je crois, à Paris. Et ça, ça a été aussi très important, sachant qu'en plus, moi, je sais que ce travail de récolte de témoignages et d'archives est pour un certain nombre de copines très important, très touchant, très valorisant, enfin, avec l'idée que peut-être un jour, il y aura un livre sur l'association Femmes Entre Elles. Et donc, c'est la mémoire, ça a un nom scientifique, je ne sais plus lequel. Enfin, le fait de récolter les témoignages vivants, la mémoire vivante, pour nos luttes, comme le disait Camille, et comme là on en est d'accord toutes les quatre, c'est très important parce que ce sont des personnes, certaines par exemple, n'ont jamais dit à leur famille, ni même encore aujourd'hui, qu'elles sont lesbiennes. Certaines n'ont absolument pas voulu être interviewées, même si elles m'ont parlé, même si on en a discuté, parce qu'elles ont trop peur qu'un jour ça se sache, alors que ce sont des femmes qui ont 75, voilà. Certaines ont voulu être anonymisées de toutes les manières, au cas où quelqu'un dans les archives un jour les reconnaîtrait. C'est pour dire dans quel, pour certaines femmes, pas pour tout le monde, mais dans quel climat on est encore aujourd'hui. Et je pense que aujourd'hui les marches lesbiennes qui se sont déroulées dans plusieurs villes témoigne du fait que la question de l'égalité de droit à exister comme on en vit, elle est toujours pas gagnée. Elle a pénétré la société dans différents secteurs, elle permet à des petites filles, par exemple, de pouvoir s'identifier, de comprendre ce qui se passe pour elles, alors que dans le temps, on comprenait pas du tout ce qui se passait. Du côté de la psychiatrie et de la psychanalyse, il y a eu des progrès de fait, mais il y a encore des mouvements extrêmement réactionnaires. Les thérapies de conversion sont interdites, mais je serais pas étonnée qu'un jour le sujet revienne sur la table. Il y a quand même des forces catholiques d'extrême droite et tout ça qui continuent à penser que tout ça doit être soigné. Je pense que le travail qu'on fait à Rennes et comme le disait Camille, qui se construit aussi ailleurs, il est fondamental. Moi, je sais qu'en tant que jeune lesbienne, j'aurais tellement aimé avoir un matériel comme ça. Juste savoir ce que je vivais, ce que j'étais, et que d'autres étaient comme ça, et que non, c'était pas une erreur de la nature, je sais pas comment dire. Donc, je pense que c'est primordial ce qu'on fait.
Camille, tu veux parler un peu des archives dans lesquelles t'as plongé, toi ?
Donc, il y a un centre d'archives lesbiennes donc, à Paris qui est situé à l'intérieur de la Maison des Femmes de Paris, dans le 13e arrondissement, qui s'appelle les ARCL, Archives Recherche Culture Lesbienne, au pluriel, et qui contient des archives sur énormément de groupes féministes, différents groupes lesbiens, et sur des groupes, des associations homosexuelles mixtes. Et qui concerne voilà, des années, moi j'ai surtout travaillé à partir des années 70, donc même on peut trouver des tracts qui datait d'avant et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une mine d'archives. Enfin, donc, il y a vraiment différents groupes. Aujourd'hui, maintenant, il y a aussi des archives sur les luttes des personnes bi, sur les luttes des personnes trans, sur les luttes des lesbiennes racisées, etc. Donc, on a vraiment une diversité aujourd'hui qu'on retrouve dans ces archives. Et en fait, travailler donc sur les archives militantes, et notamment des luttes militantes qui sont assez souvent invisibilisées, donc d'autant plus que comme le sont les luttes lesbiennes, c'est donc soit réussir à trouver ces plus gros centres d'archives, soit réussir en fait à trouver en fait des archives qui sont détenues par des associations ou groupes militants, et donc c'est des associations, enfin il faut demander en fait l'autorisation de ces associations pour pouvoir aller voir leurs archives. Ou aussi, en fait, mais nous, par exemple, Françoise Zéraï, mais travailler aussi à partir d'archives que détenait Françoise, en fait, qu'elle a gardées de ses années de lutte. Et donc, c'est ça, en fait, travailler sur ces luttes passées, c'est aussi retrouver les différentes actrices de ces années-là. Et en fait, pour certaines, elles ont gardé en fait des archives, des traces, des tracts, des textes, des pétitions, etc. Qu'elles avaient dans les groupes dans lesquels elles ont milité. Et donc voilà, donc ça c'est aussi réussir en fait à faire tout ce cheminement-là, parce qu'en fait il y a des choses, mais c'est juste qu'elles sont pas recensées et que bah en fait ce qui est normal en fait, il faut réussir à trouver un terrain d'entente, une confiance réciproque pour pouvoir aller chez la personne, regarder les archives qu'elle a gardées, pouvoir l'interviewer, etc. Enfin, je pense que peut-être qu'on n'a pas parlé tant que ça, mais c'est pareil, il y a un rapport un peu de, enfin ce que disait Françoise hein, sur le fait de considérer comme objet d'étude des personnes, et notamment des personnes qui peuvent être discriminées, telles que des lesbiennes, etc. Bah, il y a aussi tout un questionnement un peu éthique, en fait, sur le fait de se dire, bon, ben, comment moi je me situe par rapport à ça, jusqu'où je peux aller, quelles sont les thématiques qu'on peut aborder, enfin, se renseigner, en fait, énormément avant de commencer à faire des entretiens pour avoir des conceptions en fait sur qu'est-ce que ces personnes ont vécu et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut aborder ou pas, de quelle manière. Donc je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de questionnements éthiques et de renseignements en fait pour pouvoir établir un lien de confiance et ne pas dire tout et n'importe quoi par rapport à ces thématiques-là. En fait, ça me semble vraiment aussi important d'avoir cette posture un peu éthique militante, en quelque sorte, ouais. de s'être renseignée avant.
Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de faire ça ?
Eh ben, je vais rebondir sur ce que dit Camille. Moi, ça m'a beaucoup appris sur quand même la posture en tant que chercheuse par rapport à ce qui peut être considéré comme un objet, et donc ça m'a fait avancer sur ma réflexivité, puisque en fait je travaille par ailleurs sur des sujets aussi où a priori je suis pas concernée. Enfin, on est toujours concerné, mais je suis pas concernée au premier chef. Enfin, c'est pas moi qui subis les oppressions, et donc dans l'établissement, dans le lien de confiance et dans ce qu'on fait de la parole qui nous est confiée et de la manière de la traiter la plus justement possible, moi ça m'a fait beaucoup grandir là-dessus.
Merci. Clémentine ?
En tant que féministe, lesbienne et sociologue, je pense que je me suis sentie complètement au bon endroit en faisant cette recherche, aussi qu'il y avait une dimension collective et c'est une manière de travailler qui me semble nécessaire aussi aujourd'hui dans l'université. Et je crois qu'au travers des récits de vie aussi, au-delà du fait que c'était de la collecte de matériaux, donc là je parle avec mon langage de sociologue, en fait moi j'ai fait des rencontres aussi avec toutes ces femmes qui m'ont énormément touchée. Le récit de vie, c'est aussi une manière de se réapproprier le cours de sa vie, enfin d'en faire un bilan, de verser des larmes, de comprendre les éléments qui ont été des bifurcations, etc. Donc vraiment pour tout ça, ça a été des beaux cadeaux.
À toi, Camille.
Moi, c'était surtout, même si je l'ai fait et je le fais toujours, surtout en fin un peu plus universitaire, parce que j'ai fait mon mémoire puis ma thèse dessus, etc. Mais c'est aussi très relié, en fait, à un engagement militant et à une posture d'allié, en quelque sorte, en tout cas sur ces thématiques-là. Et donc, ouais, moi, finalement, même si je l'ai fait dans un cadre universitaire et de travail, etc., en fait, c'est vraiment voilà, les conceptions militantes qui m'ont vraiment intéressée et qui m'ont touchée. Et en fait, sur toute cette idée de mémoire des luttes dans une perspective militante, c'était vraiment très, très formateur et très fort comme enquête et comme thématique.
Merci. Et Françoise, pour terminer.
Alors, moi, je dirais que ça, ce que j'en retire d'abord, c'est une forme de joie de partager chacune à nos places ce travail à quatre, avec parfois de la conflictualité, parce que c'est pas évident. Nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas la même posture. Je ne suis pas sociologue, comme dirait Clémentine, ou j'ai pas fait de sciences politiques. Mais ce qu'on a en commun, je pense, c'est une forme d'engagement. Je reprends le terme de Camille, chacune à notre manière, et le souci de sincérité au sens de pas tordre les témoignages, pas tordre les archives, avancer avec méthode et éthique. Voilà. Et ensuite, donc moi, j'en retire aussi. À ma manière, une forme de stimulation intellectuelle, on va dire. Et puis un grand plaisir à retrouver mes petites camarades, que j'aime beaucoup.
Oui, merci beaucoup. Les filles, c'était une grande joie et un grand honneur de vous avoir à mon micro aujourd'hui.
Merci Alice. Oui. Merci à toi et bravo pour tout ce que tu fais.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram @comingincomingout. À bientôt !